Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Thierry. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir, Priscilla.
Donc, tu es CEO de Bagelstein. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une belle réussite strasbourgeoise ?
Il y a beaucoup de mots dans ce que tu dis. Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce que c'est une réussite ? Et est-ce que c'est strasbourgeois ?
Ouais.
C'est une belle histoire, réussite, l'avenir le dira. C'est une belle histoire, elle a commencé à Strasbourg, donc on peut effectivement la qualifier de strasbourgeoise. Elle a eu la chance ou le talent de se développer bien au-delà de Strasbourg, donc elle a encore ses racines ici, mais elle a fait du chemin depuis.
Oui, elle est allée à Paris aussi.
Elle est allée dans 60 villes de France et dans 5 pays pour le moment.
Ouais. Ouais. Mais vu qu'il y a une autre maison mère...
Oui, il y a des bureaux à Paris, mais le siège est ancré à Strasbourg.
Oui, voilà, c'est ça que je dis, est-ce que c'est une réussite strasbourgeoise ou pas ? Quand j'en parle à mes amis entrepreneurs, pour eux, ça représente un peu tout ce qu'ils aimeraient avoir, en fait. Genre, voilà, beaucoup d'employés... Non, mais c'est vrai, beaucoup d'employés, quand j'en parlais, ils disaient « Ah ouais, c'est stylé, Bagelstein, etc. »
C'est stylé, Bagelstein.
Ouais.
Bah, c'est stylé parce qu'on a créé un concept, on a créé aussi un ton irrévérencieux, on a créé une nouvelle façon de rentrer dans un magasin et puis d'ouvrir une forme de restauration un peu particulière parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est particulier. Et puis... C'est peut-être stylé parce que on a une grande gueule et qu'on ose dire ce que beaucoup n'osent pas dire, pas sur tous les terrains, mais parce qu'on a un ton qui nous qualifie. Ouais. Donc, Bagelstein, ça repose sur deux piliers qui sont un ton décalé et une nourriture topissime.
Voilà. Parce que, ouais, je vois bien que quand on entreprend, on essaie de se mettre dans des cadres, on essaie de bien faire, bien parler, surtout quand... Ils cherchent des investisseurs, enfin, ouais, ils n'osent pas s'exprimer librement parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et Bagelstein ne fait pas ça, en fait.
Mais il y a un curseur qui est un peu compliqué à manœuvrer et peut-être que c'est mon associé, moi, Gilles et moi, des choses qu'on a acquis avant nos expériences Bagelstein. Et on a fait des choses avant, mais c'est vrai qu'il y a un curseur qui est pas simple à manipuler dans le ton. Comment se démarquer de ce qui existe déjà tout en restant dans quelque chose qui puisse rassurer ou en tout cas ne pas inquiéter d'éventuels investisseurs quand on est entrepreneur.
Parce que il y a des, je sais que il y a des, comment dire, il y a eu des moments où vous avez eu des petits problèmes au niveau de la communication.
Oui, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes parce qu'il y a un moment donné où on a, enfin depuis le début, on a choisi un ton que nous sommes les seuls à censurer. Donc on s'interdit des choses, hein, on ne dit pas tout et n'importe quoi. Et on a été à un moment donné rattrapé par les réseaux sociaux qui sont, on le sait tous, un creuset de neurones pas toujours adaptés. Donc ça, il y a eu plein de détournements de ce qu'on voulait dire et de ce qu'on a dit. Et puis avec ces réseaux sociaux, c'est parti très très vite. Donc il y a des choses qu'on n'a pas réussi à contrôler, alors qu'elles n'ont jamais été mal intentionnées au départ. On rigole de beaucoup de choses, mais on a des limites aussi. On a un cadre, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas de sexisme, il n'y a rien sur les religions. Mais après, il y a des choses qui ont été détournées. Ouais.
Mais comment on fait pour attraper ça ? On ne se dit pas, en fait, on va arrêter de faire des choses comme ça ?
Alors, ça a été compliqué parce que c'est allé assez loin dans la haine contre nous à un moment donné et de manière très détournée. On a eu, je peux donner un exemple, on a eu, il y avait un soir dans un talk show, un publiciste qui s'appelle Jacques Séguéla, qui a été pendant des années le publiciste des campagnes présidentielles, et qui était interrogé sur l'homosexualité, et il était extrêmement gêné. Il était tellement gêné que ça en devenait gênant, et nous, on a fait un post le lendemain en disant « J'en ai marre de ces gays-là, Jacques S., vieux publiciste, 81 ans ». Et c'était vraiment pour se moquer de lui et de sa gêne sur ce sujet. Et le lendemain, on a eu des haters qui ont enlevé le Jacques S, 81 ans, vieux publiciste, et qui ont laissé « J'en ai marre de ces gays-là, Bagelstein ». Et on s'est retrouvé taxé d'homophobie, ce qui est à l'opposé de nos valeurs. Et je vais pas à me justifier là-dessus. On a été sponsor de la Gay Pride. Il n'y a aucun début de commencement de polémique. Mais ça a été repris, déformé, et on s'est retrouvé avec des manifs LGBT devant nos boutiques, avec des vitrines cassées, avec des déferlements. Donc c'est compliqué. Et dans ces moments-là, c'est que faire ? Parce que en répondant et en justifiant, on abreuve ce flot de haine. Et on a travaillé avec des agences de com, et c'est vrai que c'est pas simple ensuite d'effacer ces images qui sont nées de rien et qui ont été construites de toutes parts par des gens qui ne veulent pas de bien. Mais on apprend aussi après à se dire, est-ce qu'on se tait maintenant, et on est très barre de fer sur nos valeurs, c'est-à-dire que ça fait partie de Begelstein, donc on va continuer à ne pas vouloir blesser de gens, ça c'est important, hein, on n'est pas là pour faire du mal, mais on va aussi continuer à ouvrir notre gueule et à rire de ce qui est risible.
Oui, parce que ça serait bizarre de tout arrêter en fait.
Ben, ça serait plus Begelstein.
Voilà, de dire non, maintenant on va être soft, on va faire attention, on va être lisse sur nos paroles. Ouais.
Non, et ce n'est pas toujours simple parce qu'on a un réseau de franchisés qui est avec nous et qui nous suivent, et il faut aussi tenir compte de leur quotidien. Et c'est pour ça que quand on franchise des personnes qui ont envie d'adhérer à la marque, il faut qu'on fasse attention à ce que ce soit des gens qui soient dans le même état d'esprit que nous dans ces moments-là.
Et justement, comment vous faites pour les... Enfin, c'est des gens qui viennent chez vous, oui, qui disent, voilà, j'ouvre une franchise de Begelstein. Donc, déjà, ils connaissent la fonction de communication.
Oui, ils connaissent, mais il faut... Et on est extrêmement clair et transparent là-dessus. Il faut qu'on les éclaire encore plus sur voilà ce qui va se passer demain, parce que on va continuer à avoir ce ton décalé. Et il faut y adhérer.
Ouais, j'ai bien aimé quand on est à... J'étais rencontrée à Begelstein.
Oui.
Ouais, c'est quoi les lignes ? Je ne sais plus exactement par terre.
Ah, sur terre, ouais.
C'était extrêmement... Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais il y a combien d'auteurs ?
Oh, ben, on est une équipe, hein. Ouais. Il y a des gens formidables au sein de Begelstein. À la com, on travaille entre nous. Ce n'est pas la partie la plus désagréable que de sortir des vannes. Ce qui est plus compliqué, c'est que pour les gens qui travaillent chez nous, il faut être très réactif sur ce qui se passe, parce qu'on rebondit beaucoup sur l'actualité. Et puis la métier de la communication, c'est pas simple, parce qu'il faut pas avoir d'ego, parce que souvent il y a des gens qui viennent et qui disent, attends, j'en ai une super, vous allez vous marrer, et ça tombe à plat, et il faut pouvoir dire non, continue, cherche encore.
Ça va venir. Mais ouais, des fois je pense que c'est rapide, et des fois ça peut être plus long, quoi.
Ouais.
Et sinon, sur la partie entrepreneuriale, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur dans l'âme, ou c'était...
Non, en fait, non. Même, je ne suis pas né pour être entrepreneur au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce, puis je suis devenu expert comptable. Mais je n'ai jamais voulu travailler dans l'expertise comptable. Et je travaillais dans un grand cabinet d'audit financier américain. Et j'étais un extraordinaire petit soldat. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était de m'engager dans ma boîte. Et j'aurais pu me faire tatouer le nom de ma boîte sur l'omoplate, tellement j'étais à fond. Je venais le samedi au bureau au cas où il y avait quelque chose à faire. J'étais un petit soldat. Et puis j'ai grandi dans cette boîte et j'ai adoré cette expérience. Mais j'étais à milieu de l'entrepreneuriat. Et puis petit à petit, j'ai réalisé que ma vie était faite pour réaliser mes rêves. Donc ce rêve-là de l'audit financier qui a duré 10 ans, je l'ai accompli et j'ai voulu tourner une page. Et ensuite, je suis devenu directeur du Racing Club de Strasbourg, qui n'avait toujours rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais qui était une manière de réaliser mes rêves. Et l'entrepreneuriat est venu après. J'ai eu une expérience semi-entrepreneuriale en rachetant des parts d'une société familiale de potes à moi avec laquelle j'ai travaillé magnifiquement pendant des années, avant d'aboutir à un vrai projet entrepreneurial. Mais donc, ça n'a pas été... À la sortie de mes études, je ne me suis pas dit « je veux être entrepreneur ». C'est venu petit à petit.
Parce que même aujourd'hui, être numéro un, c'est quand même dur. C'est prendre les décisions finales, en fait. C'est vrai que tout le monde dit « ouais, je vais être CEO, etc. » Mais en fait, c'est les décisions les pires à prendre, en fait. C'est vraiment le dernier, en fait. C'est pas le rêve absolu, en fait. Même on dit être un numéro deux, c'est stylé, en fait.
Y a encore une dernière solution en tant que numéro 2. Donc, quand on est numéro 1, on est la dernière solution de chaque problème. Et comme vraiment, je pense qu'il y a des gens formidables qui travaillent chez moi. Si eux n'ont pas trouvé la solution et que ça arrive chez moi, c'est qu'il y a des gens brillants qui ont réfléchi et qui n'ont pas résolu. Donc, c'est que c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est extraordinaire de travailler avec des équipes et d'animer des équipes, puisque en tant que cofondateur, puisqu'on est deux quand même, à diriger cette histoire. Et donc ça, ça change aussi beaucoup de choses. Mais animer une équipe, avoir une vision, la transmettre à des gens qui sont brillants, parce qu'encore une fois, il y a des gens brillants chez nous, et les amener à se dépasser pour construire le projet que mon associé et moi avons créé, c'est extraordinaire. Mais c'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours. Les angoisses, elles sont pour les responsables, pour les fondateurs, les victoires aussi. Donc, en fait, il y a des amplitudes qui sont extrêmement denses. Ça va de très bas à très haut, et il faut être prêt à vivre ça quand on est un entrepreneur. Ces montagnes russes, les victoires sont géniales, les défaites sont abominables. Et il faut s'en relever et il faut reconstruire derrière. Et c'est ça qui m'anime.
Parce que des fois, on peut avoir une victoire et un down en une journée. Et ça, c'est ingérable.
C'est extrêmement... La capacité à prendre du recul par rapport au down pour pouvoir revivre les victoires, elle s'apprend d'abord. Ça m'est pas venu tout de suite. Les mauvaises nouvelles, je les vivais différemment au début de ma période entrepreneuriale que je ne les vis maintenant. Parce que j'ai une vision, parce que j'ai des gens qui m'accompagnent, parce que je sais que le chemin sera forcément semé d'embûches, et que mon kiff au quotidien, c'est aussi de contourner ces obstacles et de faire avancer tout le monde avec moi.
Moi, ce que je me dis, quand on est deux, au départ, j'étais donc... Oui. Deux. Et maintenant, c'est plus pareil. Enfin, on se sent plus soutenu ou pas ?
Oui, on se sent plus soutenu. Les problèmes ne sont plus les mêmes.
Oh, c'est plus gros quand même.
Oui, mais la flexibilité au départ, et parfois ça nous manque aussi. Quand on est deux et qu'on décide de tout et qu'on fait tout à deux, il y a une fraîcheur qui est géniale. Le fait aussi de voir qu'on démarre un concept au départ de l'histoire, et puis qu'on voit que ça prend, et qu'on voit qu'il y a une demande, qu'on ne va pas comment pouvoir la satisfaire. Et qu'on prend les décisions à l'instinct et pas avec des tableaux Excel de 25 pages, et parfois c'est mieux aussi, hein. Mais j'ai quand même besoin de des tableaux Excel.
C'est le truc du comptable.
Ouais, il y a ces aspects là qui sont intéressants.
Et là vous êtes donc deux. Oui. Moi je parle beaucoup avec des entrepreneurs qui ont des associés, et donc toujours eu un des associés de départ, et à un moment, ça a clashé et ils ont repris des associés. Est-ce que vous étiez tout de suite... vous êtes trouvés et c'est parti ?
Ah ouais, je n'aurais jamais fait cette histoire sans lui, et je pense qu'il n'aurait jamais fait cette histoire sans moi. C'est vraiment né de notre complémentarité. On est extrêmement différents. On est de loin pas toujours d'accord. Hein. Il nous arrive souvent de fighter sur des désaccords. Mais on s'est mis à 50-50, nous obligeant à trouver des solutions à chaque fois, et des compromis à chaque fois, de son côté ou de mon côté. Mais c'est vraiment une synergie. Bagelshine n'existerait pas sans nos différences, et sans cette complémentarité et cette vision bicéphale, c'est sûr.
Vous connaissez depuis combien de temps ?
C'est important. C'est mon beau-frère. C'est pour que sur le logo c'est marqué beau et frère.
Ah oui, d'accord.
Tu vois bien rien. Et donc, pourquoi c'est mon beau-frère ? Parce que c'est le mari de ma sœur. Ou plutôt, c'était le mari de ma sœur, parce qu'entre temps, il s'est passé des choses, et que malgré tout ça, c'est resté mon ami, mon associé. Et qu'il ne peut plus rien nous arriver, donc on s'est tout dit. Mais l'histoire de Bagelshine, c'est notre histoire. On se connaissait avant, effectivement, et on parlait de bouffe tout le temps. Et un jour, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un concept tous les deux. On avait nos vies parallèles dans des univers complètement différents, ni lui ni moi dans le food. Et c'était tout au début c'était même bien avant la déferlante sushi en France. Et on s'est dit, on va créer un concept de sushi à Strasbourg. Il n'y avait rien. Et on est parti de notre page blanche et on a ouvert un restaurant de sushi avec un tapis roulant complètement déjanté, avec aucun paradigme et aucune case qu'on remplissait, puisqu'on connaissait rien à ce métier. Donc on a voulu déjouer un peu les codes. On détestait les desserts japonais à base de pâtes de haricots rouges Et donc, on a travaillé avec des grands pâtissiers. Donc, sur le tapis roulant, il y avait des sushis saumon, des yakitori poulet, et puis des macarons framboise basilic ou des millefeuilles au praliné, et puis après d'autres plats déjantés. Et on s'est beaucoup amusé avec ce concept, beaucoup travaillé aussi, et ça nous a permis de faire nos armes dans le monde de la restauration. Et puis on s'est dit qu'on voulait le dupliquer et essayer, devant le succès, d'en créer d'autres. Et on est revenu en arrière pour des raisons de dépendance par rapport aux cuisiniers, pour des raisons de problématiques de contrôle interne sur la traçabilité des aliments. Le tapis roulant, il brouille les pistes en traçabilité et en contrôle des stocks. Et c'est là où on a commencé à réfléchir à autre chose. On a pris un petit local en face d'un collège à Strasbourg, en se disant on veut faire de cet endroit l'endroit où on sèche à Strasbourg. On voulait remercier les collégiens qui venaient sécher en buvant un café chez nous. On avait toute une politique déjà assez décalée, mais on ne savait pas quel concept faire à l'intérieur. On a travaillé sur de la street food, sur des bobounes, sur de différents concepts, jusqu'à ce que le bagel arrive comme une évidence. Gilles et moi, mon associé et moi, avons tous les deux habité aux États-Unis où le produit est extrêmement répandu. Et l'avantage du bagel, c'est qu'il permettait de remplir l'emplacement du matin au soir, et pas juste un midi et deux comme pouvaient le faire des bobounes ou des soupes vietnamiennes, par exemple. Donc ça permettait de mieux amortir les charges fixes, et on est parti. Et l'aventure a démarré, finalement pas dans ce local-là, puisqu'on a décidé... On a construit Begelstein avec deux principes forts, qui sont encore nos principes d'aujourd'hui, à savoir des petits cons décalés, avec un ton ironique, un ton sarcastique, un ton moqueur, et puis on fabrique tout nous-mêmes. Tout ce qu'on mange, c'est nous qui le fabriquons. Mmh. Sauf que là, dans ce local, en face du collège, on ne pouvait pas fabriquer, donc... Complètement à l'opposé de toute démarche de rentabilité, on a continué à payer des loyers, alors que ça faisait des mois qu'on payait ce loyer à vide. Il n'y avait rien, on réfléchissait à notre concept en payant des loyers à vide. Donc, entrepreneurialement parlant, ce n'était pas top. Et au lieu de dire, bon, bah, maintenant, ça y est, on fait notre concept là, et tant pis, on ne fabrique pas nous-mêmes, on achète, et il faut qu'on ouvre ici, on s'est dit, non, c'est notre concept qui prime avant l'amortissement du lieu. Donc, on continue à payer des loyers à vide. On se met ailleurs et on fabrique parce qu'on veut fabriquer. Et on a ouvert du coup notre première boutique à la Cruteno à Strasbourg, où on fabriquait tout. Et ce n'est qu'après qu'on a ouvert la deuxième boutique en face du collège, qui était livrée tous les matins par la boutique de la Cruteno où on fabriquait.
Mais vous avez commencé donc à deux à tenir voilà, le restaurant,
etc. Bah après, il y avait des salariés aussi.
Oui,
hein.
Mais au début, tout début, ouais. Je veux
ouais.
dire.
Ouais, ouais.
Parce que... En fait, on est d'accord que là, il a fallu beaucoup enfin, de concepts pour arriver à ce concept. Il fallait beaucoup de travail, de remise en question.
Oui, mais la première boutique qui a ouvert, elle ressemblait déjà pas mal, bon, il y a pas mal de choses qui ont évolué, hein, à une boutique Begelstein d'aujourd'hui. Tout était marketé, on a voulu ça tout de suite. On a imposé une marque très vite. Du PQ au sac d'emballage, au tablier, aux casquettes, aux stylos... Il y avait le logo Begelstein partout. On voulait imposer une marque, alors qu'on ne savait pas encore qu'on allait le déployer de manière aussi importante. Mais c'était important pour nous. Et puis déjà, ces blagues, ces délires sur les murs, et de quoi marquer d'une micro-séquelle la cervelle de nos clients. Ça, c'est important pour nous. On veut qu'il se passe quelque chose dans la tête. Et c'était déjà le cas. Après, il y avait des choses qui sont venues par après, notamment dans l'aménagement des boutiques. Mais ça ressemblait déjà pas mal.
Mais c'est vous qui avez fait le concept de base ou vous avez regardé avec une boîte?
Non, c'est mon associé, moi.
Ouais. En plus, c'est dur de faire des marketing quand on n'est pas dedans.
Ouais.
Mais en fait, il y a aussi la méthode bourrin et forcé, en fait, tout seul, sans budget, ça marche aussi.
Bah, c'est surtout la méthode d'avoir une vision, de dire voilà ce qu'on veut, et d'écrire l'histoire qu'on veut raconter. On veut une boutique qui soit délirante, on veut qu'il se passe quelque chose dans la tête, on veut marquer l'esprit des gens, et pour ça on veut qu'ils se souviennent, on veut qu'ils se marrent, on veut qu'ils s'énervent, mais on veut qu'il se passe quelque chose, on veut pas laisser indifférent. Voilà, c'était notre credo. Alors on a utilisé des blagues, on a détourné des photos, on a inventé des autographes sur des personnages, et les gens venaient en disant mais c'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire? C'était qu'il se passe quelque chose, et ça a marché.
Parce que là, je vois des affiches, ouais. Mais c'est des tournements ou il y a des
vrais? Non, là, c'est des vrais. Mais par exemple, la photo de Jean Dujardin où c'est marqué oui. Oscar du meilleur dialogue pour The Artist, alors que c'est un film muet. Voilà, oui. C'est des trucs. On avait, par exemple, on a la photo d'Albert Einstein, où c'est marqué Albert Bagelstein. Oui. Et les gens, ils viennent, ils disent, mais c'est dingue, il ressemble vachement à Einstein, ce mec. C'est Bagelstein.
Ah oui, ils n'ont pas fait le lien.
Non, on avait, alors c'est des gens un peu plus anciens, mais il y avait Starsky et Hutch, c'était un feuilleton. Et on avait une photo de Starsky, et on avait marqué un faux autographe, parce qu'il y a les Hard Rock Café, où il y a des autographes, mais qui sont en fait des fakes 9 fois sur 10. Nous, on avait une photo de Starsky, et on avait mis un photographe avec toute mon amitié, Patrick Poivre d'Arvor, qui était un journaliste. Et les gens disent, c'est marrant, il ressemble à Starsky sur la photo, Patrick Poivre d'Arvor. On adorait ça.
Ouais, c'est un peu perdu. Mais en plus, je me dis, avec les réseaux sociaux, les gens, ils doivent prendre en photo, ils doivent...
Ça communique au nom de la marque, hein, ouais. C'est sûr. Ça fait partie de ça aussi. Laissons les gens qui viennent devenir nos meilleurs ambassadeurs. On sait que c'est bon, on sait que c'est drôle.
Oui, ça qui fait marcher. Mais comme il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, que Starbucks, en fait, ils écrivent mal les prénoms juste pour la com, en fait. Je ne sais pas.
Je ne sais pas,
ce serait marrant de savoir si c'est vrai ou pas. J'aime bien parler des échecs. Est-ce qu'il y a eu un échec flagrant, enfin, au sein de Bagelstein, et vous a dit est-ce qu'on continue, la résilience qu'il y a eu derrière?
On s'est jamais posé la question de continuer. Les coups durs qu'on a eus, ils ont été parfois un peu durs, parfois extrêmement durs. Mais on ne s'est jamais dit, on continue. La question ne se pose pas. Oui. Mais il y a eu des coups extrêmement durs. Ouais. Il y a eu des coups extrêmement durs au départ parce qu'on a une croissance extrêmement rapide et que la croissance, elle se finance. Et elle demande des capitaux qu'on n'avait pas. Et ça a été très violent pour à un moment donné asseoir notre trésorerie et permettre de continuer. L'État français ne nous a pas beaucoup aidés, donc ça n'a pas été simple. Les coups durs, on a ouvert une boutique en notre nom. C'était la première boutique hors Strasbourg, à Mulhouse, en avril 2012. Et on l'a fermée en avril 2013, un an après, alors qu'on avait emprunté une grosse somme, qu'on était caution personnelle sur cette histoire, parce qu'on s'est fait braquer 6 fois à Mulhouse, parce que ça a été extrêmement violent. Ouais, et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on remet les choses en question et on reste à Strasbourg et on ne s'emmerde pas? Non, parce qu'on avait notre vision. C'est notre vision, à Gilles et à moi, qui nous a toujours dicté comment continuer. Mais ça a été un coup extrêmement dur. Vous démarrez une aventure, vous espérez lever des fonds et vous fermez une boutique alors que vous venez de l'ouvrir. C'est très, très chaud. Après, les histoires de détournement de com, comme l'exemple que je vous donnais avec Séguéla, mais il y a eu d'autres choses qui a été... Ouais, il y a eu des communications qui nous ont fait mal, qui nous ont attaqué même personnellement. Mais jamais on s'est dit on arrête, jamais.
Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'investisseurs.
Si.
C'est quand même...
Oui, on a levé des fonds. Aujourd'hui, on a un investisseur qui est extrêmement important pour nous. Il est minoritaire, donc Gilles et moi on garde le contrôle de l'entreprise, mais on a eu, là aussi c'était une histoire très humaine. Un jour il y a une personne qui vient me voir qui voulait ouvrir à Genève et qui était comptable, et je lui ai expliqué, il est reparti tout content, il est revenu en me disant j'ai pas assez de moyens. Donc je vais chercher quelqu'un sur lequel m'adosser pour pouvoir ouvrir à Genève. Et il est revenu et il nous a présenté à un groupe qui est un des plus gros groupes suisses, qui pèse aujourd'hui pas loin de un peu plus de 30 milliards de francs suisses, qui s'appelle Migros, qui a plusieurs activités, mais dont la principale est la grande distribution. Et on a rencontré des gens extraordinaires chez Migros. Migros, c'est pas une société, c'est une coopérative. C'est des gens qui ont des valeurs humaines incroyables. Ils sont pas là pour payer des dividendes ou un cours de bourse. Ils sont là pour générer un service par rapport à la population suisse. Et les gens qu'on a rencontrés de Migros à la direction, il y a eu vraiment une étincelle entre nous sur les valeurs. Et on a choisi de travailler avec eux alors qu'on avait des propositions beaucoup plus intéressantes financièrement. On avait notamment une grosse proposition de LVMH qui voulait faire de Bagelstein une pépite haut de gamme dans le food. Mais on a préféré les valeurs de Migros, et je ne le regrette pas du tout, parce que c'est des gens encore aujourd'hui on travaille étroitement avec eux, et ils nous apportent aussi beaucoup dans leur vision des marchés, dans leur expérience. C'est un gros partenaire chez nous.
Mais ça doit être beau de se dire, enfin moi je me dis, qu'il y ait des grosses entreprises comme ça veulent investir et choisir après entre... De toute façon, LVMH, ça ne va pas coller en fait.
Ben, ils ont développé un fonds d'investissement food mondial où ils prennent quelques enseignes, mais pas qu'en France. Hein. Il se trouve que nous, on était en France, mais là, ils ont pris d'autres enseignes au Brésil, au Japon, et ils veulent les lancer. Ils ont un fonds dédié à ça. Et on avait été sélectionnés et on a refusé.
Ouais, ça n'aurait pas donné la même histoire.
C'est pas.
Mais c'est, ouais, voilà, c'est des choix, en fait. Voilà.
Mais c'est pas simple non plus pour eux. C'est pour ça que je les trouve d'autant plus admirables, mes associés suisses. La Suisse est un pays qui a une image très, très propre, très rangée, et avoir un petit poil à gratter comme Bagelstein, c'était pas gagné d'avance à nos yeux, et au contraire, ils nous ont hachés avec cette histoire-là, et ils l'entretiennent aussi avec nous.
Peut-être ça leur donne un peu de peps dans leur vie très cadrée.
Tout à fait.
T'as dit que ça, que Bagelstein, ça a vite décollé.
Oui.
En fait, je me rends compte que voilà, les startups, par exemple, il y a une bonne partie des startups qui meurent quand elles réussissent.
Oui. Oui, parce que la croissance génère des fonds. C'est-à-dire que tout bêtement, on avait nos deux boutiques strasbourgeoises, puis une troisième boutique strasbourgeoise qui elle a développé le concept. C'est-à-dire qu'on avait nos deux premières boutiques, une à la Cruteno, une en face du collège. Qui marchait et qui démarrait bien, et on a eu une opportunité de prendre la boutique rue des Francs-Bourgeois à côté du cinéma Vox, qui elle a donné une vraie visibilité, et c'est là où on a eu beaucoup de demandes et qui a permis de développer l'histoire aussi. Mais on aurait pu rester avec nos deux boutiques beaucoup plus inconnues, et on aurait eu moins besoin de capitaux, parce qu'à partir du moment où on a eu ces demandes et ce succès, eh ben, il a fallu investir dans des centres de production. En fait, il y a une année 2012 qui a été charnière pour nous, puisqu'on a fait le salon de la franchise. Alors, on l'a fait à la Bagelstein, on n'avait pas un rond, et on a eu une opportunité pour avoir un stand pas cher, mais on n'avait plus de quoi l'habiller. Donc, le stand, il y avait marqué Bagelstein, il y avait une table de chaises et des photos de bagel. Et à côté de nous, il y avait Monceau-Fleur qui avait une fontaine et des majorettes, et puis les autres qui faisaient des feux d'artifice, et puis etc. Et les gens, ils venaient vers nous, ils disaient « C'est quoi votre truc là, Bagelstein? Vous faites quoi ?» Alors on leur expliquait, et ils disaient « Ah, mais on peut goûter ?» Ben non, il n'y a rien à manger ici, on n'est pas là pour vous nourrir gratos, si vous voulez manger, vous allez chez McDo là sur le stand, et puis vous revenez après. Et en fait, les gens, ils ont adoré, ils sont venus à Strasbourg après. Et ils débarquaient en disant « Mais moi, je vais ouvrir ça à Perpignan, je vais ouvrir ça à Clermont-Ferrand, je vais ouvrir ça à Lille, etc. » Et nous, on ne savait pas comment générer ça, parce qu'il fallait qu'on ait un centre de production pour pouvoir livrer ces boutiques. Et on a signé notre premier franchisé parisien. Et pour nous, ça a été un pas en avant extraordinaire, parce qu'il y a quelqu'un qui mettait de l'argent sur la table. Pas de l'argent pour nous, ça ne coûte pas une fortune en droit d'entrée, mais de l'argent pour... parce qu'il a pris un local à Paris qui lui coûtait cher et qu'il a fait transformer ce local en boutique Bagelstein. Donc il a mis de l'argent sur la table, et pas mal d'argent pour ce local-là, qui en plus était un très grand local à Paris. Et donc nous, on avait une responsabilité. Il y a quelqu'un d'autre que nous qui porte notre marque. C'est un truc de dingue. C'est notre bébé. Et on devait ouvrir le 4 septembre. Et pour ça, on avait monté un centre de production à Paris. Donc on formait les gens, on avait pris ça à l'arrache, et quelques jours avant de récupérer le centre de production, on a appris que le centre de production ne serait disponible que 3 mois après. Et moi, je ne me voyais pas dire à mon franchisé, qui était mon premier franchisé et qui nous faisait confiance, ben, on décale tout de 4 mois. Et donc tous les jours, on fabriquait à Strasbourg et on livrait en voiture toute la nuit pour aller le livrer. Ça m'a coûté... une fortune, ça m'a coûté ma santé, ça a été abominable, mais on a tenu nos engagements et ça nous a forgé aussi dans nos rapports avec nos franchisés. Parce que le métier de franchiseur, c'est pas simple. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui prennent un risque et qui portent ma marque. C'est pas des clients et moi je suis un fournisseur. Ils portent mon bébé. Et cette expérience de ce premier franchisé où on s'est déchiré pour pouvoir honorer nos engagements, elle a aussi forgé en nous cette volonté d'être apporteur de valeur ajoutée pour nos franchisés.
Comme quoi on peut monter des projets sans être riche, sans avoir beaucoup d'argent. Il faut juste en fait avoir le courage et trouver des solutions.
Il faut une vision, un grain de folie et un équilibre entre folie et raison. Parce qu'on ne peut pas faire tout n'importe quoi, mais si on est trop lisse, il ne se passe souvent pas grand-chose.
En fait, c'est un peu le syndrome du Mickey, quoi.
Syndrome de Mickey ?
Ouais, c'est genre, il ne dit rien, il est lisse et tout, etc. Ouais. Et il ne rapporte rien, ouais. En fait. Et il ne se démarque pas. Mais ouais, je me dis, waouh, ramener tous les jours à Paris, ça fait combien ?
C'était en camionnette, donc ça faisait presque 6 heures de voiture.
Ouais, allez.
Bah, allez.
Pas le retour. Je me dis, juste là, il y a plein de gens qui sont fait non, en fait, c'est bien Strasbourg, on va rester à Strasbourg. Et combien y a de franchisés alors ?
Combien de franchisés aujourd'hui ?
Ouais.
Aujourd'hui, on a 92 boutiques, mais il y en a qui, des franchisés qui ont plusieurs boutiques.
D'accord. Tu conseillerais quoi aux jeunes comme moi qui ont bientôt la trentaine, entre 20 et 30 ans, qui veulent se lancer ?
De croire en votre vision. Il n'y a personne aussi bien placé que vous qui arrive à voir ce que vous voyez. Et il va y avoir des milliers de personnes qui vont vous trouver d'excellentes raisons pour dire que ça ne peut pas marcher. Et à ce moment-là, c'est très perturbant parce que parfois, c'est des personnes proches et qui ne veulent pas forcément du mal. Et il faut trouver le point d'équilibre entre... Non, je sais qu'il faut que j'essaye. Et, merde, elle a peut-être raison, l'oncle Albert, là.
Ça vous est arrivé ?
Ouais.
Plein ?
Ouais.
Ah, c'est chiant, moi, j'aime pas ça.
Ouais, c'est chiant parce qu'il faut vraiment s'accrocher à sa vision. Et j'ai aussi une femme qui est extraordinaire parce qu'au début, ça a été extrêmement difficile financièrement. Moi, j'avais toutes les semaines l'huissier à la maison qui venait prendre la télé. Hein, mais je croyais en mon histoire. Et moi, j'y croyais. Mais elle voyait juste lui. Il fallait qu'elle croie en moi qui croyait. Donc, c'est aussi important, un environnement qui est là.
Oui, parce que je parlais aussi de l'entrepreneuriat qu'on est en couple, enfin, qu'on est avec quelqu'un, on n'est pas seul. En fait, il faut être transparent.
Oui. Et moi, toute ma famille a vécu mon projet entrepreneurial. Hein. Quand je faisais des allers-retours Strasbourg-Paris pour aller livrer, c'était pas simple non plus. Et c'était même anxiogène. Mais pour revenir à ta question sur que conseiller à un jeune, d'abord, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'argent que de ne pas en avoir, mais c'est souvent le problème. Donc, il faut dès le départ upgrader la forme autant que le fond. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Et mon associé a souvent été plus volontaire que moi dans ce... Combien de fois, parce que j'aide beaucoup de jeunes qui démarrent leur start-up, combien de fois je vois 4 pages Word avec 2 tableaux Excel, des impressions écran, ça ne fait pas rêver, faites rêver. Il y a des moyens d'aller chercher des fonds, il y a des moyens de convaincre, mais merde. Si vous avez un bijou entre les mains, on ne vend pas un bijou en le sortant de la poche et en le posant sur la table par rapport à « j'ai un écrin magnifique qui le met en valeur ». Et ça peut paraître... Parce que les jeunes qui commencent, ils se disent « ouais, mais il faut que je trouve l'idée ». C'est évident, c'est le postulat numéro un. Mais dès qu'on a l'idée, il faut l'habiller. Et il faut faire rêver les gens à qui vous allez parler.
Ouais, parce que je pense qu'on est très scolaire, un peu des fois, à sortir le print écran... Et c'est vrai qu'on se démarque pas du tout du reste de la... Parce que en fait, c'est la guerre dehors, l'entrepreneuriat, en fait. On n'est pas là pour faire dans la...
Mais moi, je me souviens que les premières plaquettes, on les faisait faire par des agences graphiques. Alors que, on va dire, mais je ne veux pas mettre de l'argent là-dedans. Non, ça va, j'ai un ordinateur, je vais faire moi-même. Et puis, il y a plein de frameworks. Ouais, mais non. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire par une agence graphique. Ça veut juste dire qu'il faut investir du temps ou de l'argent, peu importe, sur la forme et sur la manière dont vous allez faire rêver quelqu'un.
Oui, parce qu'il y en a qui ont des grands rêves, mais ils ne veulent pas mettre les moyens. Donc, ils conseillent de baisser alors le rêve. Si on ne peut pas mettre...
C'est dommage.
Bah ouais, mais il y en a, ils ont peur de mettre, je ne sais pas, 1 000 euros. Ou même comme moi,
mais parfois même 100 euros. Ouais. Je comprends, c'est toujours délicat. Chaque euro est délicat au départ. Mais construisez un site, construisez une plaquette de papier, et ça ne coûte pas forcément des milliers d'euros, mais quelque chose qui envoie du rêve. C'est autant ce que j'ai fait beaucoup de démarches par rapport à des levées de fonds. Le projet est primordial. La rentabilité du projet est primordiale. Mais on a l'impression qu'il n'y a que ça au départ quand on construit une histoire. Les gens qui vont investir investissent au moins autant dans la personnalité et dans la perception qu'ils ont du projet que dans le projet lui-même. Il faut l'intégrer et il faut jouer là-dessus.
Ouais, dans le pourquoi aussi. Parce que dans le coup, en fait, voilà, c'est comme, je pense, tu connais le cercle d'or. Mm-hmm. Ouais, en France, on vend le quoi ? On vend pas le pourquoi. Et c'est dur, moi qui travaille dans le marketing et la com, dire ça des fois aux clients, ils font... Ouais, mais non, mais on vend un produit. Ouais, mais non, mais en fait, les gens, ils s'en foutent du produit. Enfin, il y en a 1 000 comme vous, en fait. Voilà, ce qui différencie, c'est ce Absolument. Que vous racontez, quoi. Ouais, le storytelling, ils ont du mal, alors que j'ai l'impression que c'est
regarde, c'est Starbucks. Simple. Starbucks, c'est quand même... Comment arriver à faire acheter à des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas forcément des hauts revenus, un café qui est basique, qui ne ouais. coûte rien, 5, 6, 7 fois plus cher que ce qu'ils voient ailleurs, juste parce qu'on donne un sentiment de fierté de se balader avec un gobelet Starbucks et d'aller acheter son café chez Starbucks. C'est, alors, je caricature, mais c'est extraordinaire. On n'achète pas un café, on achète une façon de boire un café. Et tout est comme ça dans l'entrepreneuriat, au moins au départ. Que ce soit une start-up tech ou un magasin de retail qu'on a envie de lancer, c'est la perception qu'on a de ce qu'on est en train de faire.
Et tu vois un peu l'univers, l'écosystème strasbourgeois ? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses de tous ces jeunes, enfin, qui se lancent, enfin, si c'est positif, ok, mais... Enfin, il y en a énormément. Je trouve qu'il y a un jeu, enfin énormément, je ne sais pas, mais c'est un joli écosystème.
Alors, je m'en excuse, mais je ne suis pas très, très au fait de... Je fais beaucoup de choses, mais je le fais plus à Paris qu'à Strasbourg, parce que je passe au moins autant de temps à Paris qu'à Strasbourg, et que je n'ai jamais été contacté. Ce n'est pas que je ne veux pas, hein, c'est que l'écosystème parisien me contacte beaucoup, l'écosystème strasbourgeois ne me contacte pas. Il n'est pas blâmable, hein, il a le droit, mais je fais beaucoup de choses à Paris et je n'ai rien fait à Strasbourg.
Ce qui est bien, c'est bizarre, même. Je me dis, c'est bien, les gars, vous faites quoi Enfin, après, c'est... Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas capté que ça existait.
Peut-être qu'il est moins structuré aussi.
Ouais. Et je sais qu'il est particulier. Je ne raconterai plus rien. Mais ce qui est bien à Paris, c'est qu'il y a des gens à Strasbourg qui partent à Paris parce qu'ils se disent... Je ne peux pas faire autant de cash à Strasbourg qu'à Paris. Je ne peux pas autant m'expandre.
C'est sûr que le business, il est beaucoup plus à Paris qu'à Strasbourg. Maintenant, ça dépend du business aussi. Et puis, cette période Covid a montré qu'on pouvait faire des choses à distance. Selon les métiers, il y a quand même Paris est quand même une place centrale. La France est très jacobine pour ça. Hein. On est très centralisé. Et puis, il y a un dynamisme autour de certains métiers qui est un peu plus profond. Maintenant, Strasbourg a des gros atouts, mais encore une fois, je ne connais pas bien l'écosystème entrepreneurial strasbourgeois.
C'est fou. Non, mais ouais, c'est fou, parce que je me dis, il y a quand même... Enfin, j'ai beaucoup d'amis dans les startups, et ouais.
Après, je fais beaucoup de choses dans les écoles, par exemple. L'EM Strasbourg ne m'a jamais sollicité, et j'ai pas besoin qu'ils me sollicitent.
C'est pas un appel du pied du tout. Il y a des questions que j'aime bien poser, un peu décalées aussi. Hein. Mais quel est ton plus grand défaut ?
L'impatience. Ouais. J'ai un espace-temps. Moi, je vais assez vite dans ce que je fais. Et parfois, j'ai Ouais, j'ai trop tendance à vouloir que ça soit la même chose autour de moi.
En plus, c'est dur, hein, d'être impatient quand on monte des entreprises, parce qu'il faut de la patience.
Ah, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup parce que l'espace-temps du monde autour de soi, quand on est entrepreneur, c'est pas du tout le même. Et puis, quand on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, et que ça ralentit d'un autre côté, c'est pas toujours facile à accepter. Ouais.
Oui, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas à 35 heures, 6 mois,
Ah non.
6 mois on est millionnaire.
Non, non, non.
Non.
Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur. Non, c'est un marathon, c'est pas un sprint.
Ouais. Et après, il y en a qui disent c'est un marathon avec des sprints à
Hein.
l'intérieur aussi.
Il y a des moments où on doit sprinter, oui, parce qu'on a une bête féroce aux fesses qui essaye de nous croquer. Parce que tu as parlé de guerre, mais il n'y a pas de mort d'homme, mais c'est un combat en tout cas, oui.
Voilà,
Ouais.
c'est la guerre, c'est un grand mot, mais je sais qu'à un moment, si on se croit dans le monde des bisounours, c'est compliqué.
Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des concurrents, il y a des règles. Je ne vais pas dire que quand on a un contrôle fiscal, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais c'est forcément anxiogène. Et on est dans un monde qui est très contrôlé, cadré, justiciabilisé. Et parfois, la justice, elle a aussi un espace-temps très différent. On a eu, comme toute entreprise à succès ou dont la marque est un peu reconnue, on a eu des copies. On a eu des copies flagrantes. Et c'est qui pour nous, il n'y avait même pas un début de commencement de polémique sur le fait que c'est des copies, parce qu'effectivement, c'était des boutiques où je rentrais dedans, j'étais incapable de dire si c'était Bagelshen ou sa copie. Mais la justice décide avec d'autres lunettes. Et ça a été des préjudices très importants qu'on a mis 8 ans à gagner. Mais pendant 8 ans, ça a été un combat.
Donc quand t'as entendu parler de ses copies, t'es allé voir
Ah oui.
et là tu
Ben,
poursuis.
oui. Et alors on attaque au tribunal et le tribunal le dit ben non, 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 c'est pas une copie, ils ont le droit de vendre ça. Ah ben oui, mais ils vendent ça avec le même nom, avec la même décoration. Donc. Ça a été faire valoir ses droits. Et là aussi, ça devient presque irrationnel. C'était même au-delà de l'aspect économique. C'était de dire merde, j'ai créé quelque chose. En fait, c'était un gars qui voulait être franchisé chez nous. Et comme on est assez drastique dans nos choix, on l'avait refusé parce qu'on ne voulait pas qu'il porte notre marque. Et vexé, il a copié. Et ça a été très long pour faire valoir nos droits.
Est-ce qu'il y a un truc que tu détestes faire?
En tant qu'entrepreneur et que chef d'entreprise, bah, c'est toujours difficile de se séparer de personnes qui ont peu ou prou contribué à écrire une partie de l'histoire de Bagelstein. Mais là encore, c'est l'intérêt de la marque qui prime. Et il y a des fois où je suis obligé de me séparer de collaborateurs. C'est toujours difficile parce que même si j'ai des choses à leur reprocher, alors sauf s'ils ont fait des choses extrêmement graves, mais il y a des fois où c'est des désaccords de vision et c'est des gens qui à un moment donné ont apporté quelque chose. C'est peut-être plus le cas, mais ils ont contribué aussi à écrire cette histoire et c'est pas ce que je préfère.
Ouais, virer des gens, fermer des boutiques, quoi, c'est pas évident. Vous avez aussi fermé des boutiques, je pense, House
Oui.
Formis à Mulhouse.
Oui. Ouais, ça nous est arrivé d'avoir des erreurs de choix, ça nous est aussi arrivé d'avoir des changements, une rue qui était piétonne, où il y a plein de monde, qui tout d'un coup devient à nouveau ouverte à la circulation, et ben, ça change l'histoire. Oui, on a fermé des boutiques. Ouais.
Ça n'avait pas fait bizarre d'arrêter le premier Bigelstein de la Cretenat, il n'y a pas longtemps?
Alors, il y a eu différents stades.
Ouais.
Au début, c'était ma boutique, forcément, c'est là que ça a commencé. Et ensuite, on l'a vendu à un franchisé. Et ce franchisé l'a bah, pas fait tout ce qu'il aurait pu ou dû faire. Et donc, ça a été moins douloureux de le fermer que si ça avait été moi qui l'exploitais et qui le fermais. Mais ça a quand même fait quelque chose parce que c'est là que ça a commencé. Et puis se dire que, alors on s'est dit, est-ce qu'on va quand même pas faire le musée de Begelstein dans cette boutique? Et voilà, ça nous a fait quelque chose, mais on a vite tourné la page.
Oui, voilà. Parce que je pense qu'il y a eu quand même tellement d'années. Il y a eu d'autres belles choses. Voilà. Ouais, ce que je me dis, c'est... Enfin, quand j'ai vu que ça devenait un kebab vegan, je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont changé. Ils ont arrêté les vegans.
C'est pas Kebabstein.
Non. Et j'aime bien finir par cette question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Il y a peut-être 2 jours, hein, ça passe aussi.
C'est une phrase qui me porte pas mal. En tant que, c'est pas, elle n'est pas du tout de moi et elle est bateau. Mais la vie, c'est pas attendre que le soleil revienne, c'est apprendre à danser sous la pluie. Mmh. Et j'ai appris aussi en tant qu'entrepreneur à me dire que tout ce qui passe m'enrichit. Et la phrase de Nelson Mandela aussi, parfois on gagne, parfois on apprend. C'est aussi bateau, mais c'est tellement vrai. Mais il faut pouvoir avoir le recul et l'apaisement intérieur pour pouvoir vivre les difficultés comme ça, en disant, ok, là ça se passe pas bien, mais c'est préparatoire à quelque chose qui sera bien. Et probablement qu'à la sortie de mon école, j'étais trop jeune et j'avais pas cette prise de distance par rapport aux problèmes qui me permettent aujourd'hui d'être plus apaisé, même quand il y a des tempêtes. Et il y en a eu et il y en aura. Mais ça fait partie de ma vie d'entrepreneur que j'ai choisi.
Et vous avez quoi comme volonté sur, je sais pas, l'année prochaine, vous voulez encore ouvrir d'autres boutiques dans le pays?
Ah oui, oui, c'est un tel kiff de voir des gens avoir envie de ma marque que ça, c'est extraordinaire. Donc, on va ouvrir d'autres boutiques en France. On est en train de travailler sur un autre modèle pour pouvoir exporter. Donc, on travaille déjà dans d'autres pays, mais là, on développe encore plus d'autres pays en Europe, puisqu'on a signé l'Autriche, l'Italie, on rouvre en Allemagne, on travaille sur l'Angleterre, mais aussi sur d'autres pays, Dubaï, le Japon. Donc, c'est assez extraordinaire et gratifiant de voir qu'on peut avancer dans ces pays-là. Et puis, au sein de Begelstein, on repense aussi le modèle. On y travaille bien avant le Covid, mais on fait évoluer nos boutiques avec un autre système de libre-service. En plus des saladettes sur lesquelles on fait faire son bagel minute, il y aura des choses toutes prêtes avec une manière de le réchauffer qui va être très intéressante. Et on va ouvrir ces nouveaux modèles à la rentrée en 2020. Donc là, il se passe plein de choses et ça, c'est extraordinaire.
Mais juste avant de finir, juste je veux savoir pour le Covid, comment vous avez fait?
Comment on a fait?
Ouais, pour ne pas mourir dans l'œuf, enfin non pas dans l'œuf, mais mourir...
Bon, je suis assez critique sur l'entrepreneuriat en France, mais je dois dire que la manière dont le gouvernement français a géré cette crise nous a aussi aidés,
ouais,
avec la mise en place de toutes les mesures... Ça nous a aussi permis de passer un cap. Nous, on avait une autre difficulté qui est qu'on fabrique tout. Donc, on a nos centres de production. Et que c'est compliqué d'ouvrir un centre de production pour travailler à 20% de sa capacité. Et donc, on n'a pas du tout ouvert pendant le Covid, même pas en vente à emporter. Et parce que nos franchisés ne voulaient pas ouvrir. À partir du moment où ils ont décidé d'ouvrir, on a rouvert nos centres de production. Et on a fait les choses progressivement, mais je dois dire qu'on s'en sort plutôt pas si mal et que c'est au-delà des craintes qu'on avait. Mais ça a été difficile, mais même au niveau du ton, parce qu'au début, nos franchisés nous disaient, rigolons de ça, mais on n'avait pas le cœur. Quand je vous parlais d'autocensure et qu'on ne rit pas du tout de tout et n'importe quoi, on n'a pas fait de blague sur le Covid.
Non. Mais ouais, c'est ça qui était... Pendant 3 mois, tu étais chez toi à travailler sur Begelstein ou à pleurer, à dire
« Oh, non, my God, non, comment on va faire ?» Je travaillais d'arrache-pied. Ouais. On a un réseau de franchisés qui était chez lui, mm-hmm, en angoisse, et on a travaillé énormément à leur côté. J'ai beaucoup aidé mes franchisés à obtenir leur PGE, leur prêt garanti par l'État, puisque les banques, ça n'a pas toujours été simple avec elles. Et On avait des conf-calls, on les a aidés avec leurs experts comptables, on leur a aidés avec leurs assureurs, on les a aidés avec leurs bailleurs, on les a aidés avec leur personnel. On a écrit ensemble le roadbook de la reprise pour mettre en place ensemble toutes les nouvelles mesures d'hygiène qu'on allait faire, ensemble toute la communication auprès de leurs clients. On les a aidés à construire leur nouveau business model réadapté au Covid. Donc, on a travaillé comme des fous et en étroite proximité avec nos franchisés. Et ça, c'était une période très intéressante où on était tous ensemble sur le pont, alors que ce n'est pas toujours simple au quotidien d'être tous ensemble avec nos franchisés. Donc, encore une fois, j'ai tiré profit de cette expérience difficile pour en tirer quelque chose de positif.
D'accord. Bah, très bien. Bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci pour ces questions, Priscilla.
Donc, ce podcast est terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel article de blog et pour un nouveau podcast.